Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Sport 360, l'émission qui vous fait vivre le sport sous tous ses angles. Chaque semaine, on revient ensemble sur des moments forts, des performances marquantes et les infos qu'il ne fallait surtout pas manquer. Alors installez-vous confortablement, on démarre tout de suite notre tour d'horizon complet de l'actu sportive. Et pour cette semaine, au sommaire, on va commencer avec l'actualité sportive un peu globale, du foot, du tennis et du rugby. On va passer sur un petit débat sur la place des jeunes dans le champ du sport avec mon cher invité Enzo, qui est là aujourd'hui avec moi au micro, qui va aussi nous faire l'actualité du basket, donc le basket européen, si j'ai bien compris, et aussi ta spécialité, la NBA.
Tout à fait, puisque ce n'est pas le domaine de Louis, on prend un peu de place.
Et petit zoom après sur un sport un peu méconnu, je ne vous en dis pas plus, on verra tout à l'heure, et bien sûr... le coup de cœur de la semaine, comme chaque semaine, et l'agenda du week-end et de la semaine prochaine. Alors, on commence par le foot, notamment par nos clubs régionaux qui sont en Ligue 1. Donc, on a le LOSC qui s'est imposé 1-0 contre Angers ce week-end. Donc, Lille a su quand même contrôler assez bien le match avec une domination énorme du ballon, une défense très très forte qui n'a pas laissé de chance du coup aux attaquants adverses. Et leur but qui a été inscrit du coup dans la seconde période du match et qui a suffi pour leur donner des points positifs pour confirmer leur dynamique et leur position au sein de la compétition. Et on a aussi Lens, qui a grosse surprise, pas tant que ça parce qu'en face c'était Lorient, mais ils ont gagné 3-0 et franchement c'était un très beau match à voir. Je sais que j'ai de la famille qui a suivi et qui m'ont dit que c'était très impressionnant l'ambiance. Énormément d'occasions pour les Lensois qui ont su garder leur avantage, leur position et qui ont géré du début jusqu'à la fin avec une victoire assez nette. Petit zoom maintenant sur la Coupe du Monde des U17 de 2025. Donc ce sera la 20e édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et elle va se dérouler du coup du 3 novembre. Donc elle a démarré le 3 novembre et elle dure jusqu'au 27 et donc sera reliée au Qatar. Et du coup ça marque la première des 5 Coupes du Monde consécutive des U17 qui sera organisée du coup par le Qatar et la France jouera son premier match ce mercredi face au Chili à 16h45. Du coup ce tournoi c'est une excellente vitrine pour la relève mondiale et ça permet aussi de suivre de nouveaux joueurs qui potentiellement deviendront de futures stars ou de jeunes talents qui sont très prometteurs et donc c'est intéressant de suivre notamment l'équipe de France qui, on l'espère, fera un excellent parcours. Du côté de la Ligue des Champions maintenant, on a du coup en parallèle la semaine qui est marquée par le début des phases de groupe de la Ligue des Champions. Et donc pour nos clubs européens, notamment le PSG et l'OM, qui auront des matchs assez importants. Donc ça, faudra suivre avec attention et on en reparlera dans les semaines à venir. Côté tennis, cette semaine, on a eu la chance d'accueillir, comme chaque année, le Rolex Paris Master. Donc... très mauvais tournoi pour l'ancien numéro 1 mondial Carlos Alcaraz qui a perdu au premier tour et le tournoi qui a été remporté par Yannick Sinner, un tournoi vraiment impeccable pour lui qui n'a perdu aucun set le long du tournoi, un très beau match en finale contre Félix Auger-Aliassime, il s'est quand même bien défendu, il a perdu 6-4, 7-6, donc c'est un tournoi qui a été vraiment parfait pour Sinner, mais le jeune Félix qui a su rien lâcher et tenir bon jusqu'au bout. C'est une de ses rares participations en finale d'un tournoi ATP. Du côté maintenant des femmes avec le WTA Finals. Donc on a le tournoi de fin de saison comme chaque année qui a commencé cette semaine à Riyad et qui réunit les meilleures joueuses, les 8 meilleures joueuses du monde en simple et aussi en équipe de double. Et du coup, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer dans le tennis féminin parce que c'est un des plus gros tournois, un des plus gros matchs avec des matchs très serrés, très disputés qui vont déterminer leur classement de fin de saison. Du côté de Metz, maintenant, on a eu l'Open de Metz du coup, qui a débuté ce lundi. Et le tournoi, il met en avant de nombreux Français cette année, notamment Giovanni Empecci-Pericard qui est un des plus grands joueurs français de ce tournoi actuellement. Et je compte suivre bien évidemment les performances de nos joueurs. Et j'en dirai des nouvelles la semaine prochaine à la fin du tournoi. Du côté du rugby maintenant, pour le top 14, comme chaque semaine, on a toujours des rencontres assez intenses. Donc à la fin de ce week-end, on a le Stade Toulousain qui reprend la première place du classement après être descendu à la cinquième place il y a 2 semaines, suivi de très près, n'empêche, par Pau, donc la sélection paloise, et Bordeaux. Toulouse, ça confirme quand même leur régularité et aussi les tenants du titre de l'année dernière. Et Pau et Bordeaux qui se montrent assez solides. Peut-être une redescente de Pau dans les prochaines semaines, mais ils restent dans la course pour les phases finales. Et donc, de très gros changements chaque semaine dans le rugby. Et pour les matchs à venir, bah, c'est tout pour les matchs de ce week-end. Et on va maintenant faire une petite pause musicale avant de continuer sur notre petit débat concernant les jeunes dans le champ du sport. Et place tout de suite au petit débat. Donc cette semaine, un petit focus sur un sujet qui fait notamment débat en ce moment, la place des jeunes talents dans le sport professionnel. Donc comme j'ai pu l'annoncer juste avant, on a eu le lancement de la Coupe du Monde des U17 2025 qui se déroule au Qatar. Et donc les performances assez remarquables aussi de nos clubs régionaux, Lille et Lens. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que les jeunes trouvent vraiment leur place? Et est-ce qu'ils ont un réel impact sur les performances des clubs, des gros clubs aussi, des équipes, notamment l'équipe de France? Et donc, du coup, pourquoi ce sujet est pertinent cette semaine? Bah, justement, notamment avec la Coupe du Monde des U17, qui met en lumière une génération montante, parce qu'avec beaucoup de jeunes, qui seront probablement pour certains dans l'équipe de France ou d'autres grosses équipes, par exemple en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et les résultats aussi récents dans les clubs qui montrent que les jeunes gagnent beaucoup de place et essayent de s'imposer dans les équipes pour s'illustrer dans les clubs régionaux notamment. Alors, une petite question d'abord, Enzo. Selon du coup certaines études, on a seulement 4% des jeunes qui sont issus d'académies de formation qui atteignent la première division donc professionnelle. Et qu'est-ce que toi ça t'inspire et qu'est-ce que tu pourrais en retenir de ça?
Et bah, 4%, je trouve que c'est un pourcentage vraiment faible. Donc, ça montre que c'est vraiment compliqué à atteindre, que c'est vraiment des objectifs à se donner et à surpasser. Et ça doit beaucoup jouer sur leur mental aussi. Franchement, penser pouvoir réussir à être dans ces 4%, ça doit être quelque chose d'assez fou.
Et ils doivent passer par beaucoup d'étapes, notamment pour arriver jusque-là. Et est-ce que tu penses que les clubs. Alors, moi, personnellement, je ne pense pas, ou alors on n'est pas assez bien renseigné sur ça. Mais est-ce que pour toi, les clubs accompagnent assez ces jeunes, que ce soit même niveau mentor, niveau technique de match, suivi nutritionnel ou en musculation, ou même juste les intégrer dans les matchs avec plus de rotation, plus de temps de jeu.
Bah, moi, je pense que, enfin, de ce que je vois un peu, je pense que ça se met en place de plus en plus. Qu'il y a beaucoup de clubs qui prennent ça vraiment, qui prennent ça très au sérieux et que c'est important, qu'ils savent qu'ils peuvent pas forcément, qu'ils vont pas pouvoir construire leurs équipes toujours autour du même joueur, qu'à un moment il va devoir prendre sa retraite ou on sait qu'il y a des changements de club. Donc, il faut savoir construire aussi avec les jeunes parce qu'on peut pas se baser toujours sur la même génération.
Puis je prends l'exemple du coup de Toulouse par exemple. Moi je sais qu'ils ont vendu beaucoup de joueurs et ils ont une très grosse équipe maintenant, surtout de jeunes qui s'inscrivent dans les matchs. Et en vrai, ils font quand même des très bons matchs et ça montre aussi du coup l'envie des jeunes de s'intégrer dans le sport professionnel. Et du coup, est-ce que ces jeunes talents est-ce qu'ils peuvent vraiment changer le visage d'une équipe, beaucoup de dynamisme, ou est-ce que c'est trop risqué de les avoir sur le terrain? Moi, je pense personnellement que si c'est bien encadré, si y a un bon accompagnement derrière, ça peut être un plus, un renouveau pour l'équipe qui joue avec des jeunes.
Ouais, bah, je suis complètement d'accord, hein. On peut le voir. Bon, on a tous des idées en tête de joueurs vachement jeunes qui sont les images de leur équipe, pas forcément en France, mais comme des Lamine Yamal ou autres. Moi, je vois plus ça aussi avec le basket, où il y a des jeunes joueurs qui ont bouleversé, entre guillemets, des équipes, qui ont forcé même à aller chercher des mentors, des seniors pour aller leur apprendre et bien les encadrer. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord que tant que c'est encadré, ça peut être que du plus d'avoir un œil nouveau. Les sports, ils évoluent aussi, donc c'est important.
Et du coup, j'ai cherché quelques chiffres par rapport. Du coup, je parlais au temps de jeu tout à l'heure. Et donc, ça représente environ pour les joueurs qui sont formés au club, ça représente environ 17 à 20% maximum des minutes jouées en match. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait pousser davantage ou les réduire, mais que ce soit vraiment plus intense?
Bah, je pense que 20%, bah, c'est même pas un quart du coup des matchs. Je pense que même pour eux, se faire vraiment une idée, de même savoir eux, leurs limites, tout ça, ça peut être vraiment important de voir jusqu'où ils peuvent pousser plutôt que de les restreindre à un faible pourcentage. C'est dommage de ne pas leur donner plus de visibilité aussi, quoi.
Après, je pense que si on leur donne trop, ils ne sauront pas aussi forcément comment gérer au début et que ça risque plutôt de les faire plonger qu'autre chose. Et est-ce que c'est pas bien de restreindre un peu leur temps de jeu, mais pas trop le restreindre, au moins un quart d'un match ou même une mi-temps, et aussi varier, parce que c'est sûr que ce n'est pas pareil de commencer un match que de débuter un match, de rentrer sur un temps fort ou un temps de forte position pour l'équipe. Ça joue beaucoup sur le mental, sur la pression. Et du coup, ça, on donne vraiment on a vraiment une grosse attente pour ces jeunes. Et du coup, avec des compétitions comme par exemple la Coupe du Monde des U17, les jeunes, ils sont quand même exposés à une très forte pression médiatique dès un très jeune âge. 16-17 ans, c'est même pas la majorité, c'est très jeune. D'habitude, c'est papa-maman, la fin du lycée ou le début du travail professionnel en contrat pro. Est-ce que c'est sain pour leur développement personnel à eux?
Pense que sain, je sais pas, parce que les médias, c'est toujours dur d'avoir que du positif, etc. Mais si c'est dans ça qu'ils veulent avancer, c'est un peu un bagage qu'il faut aussi, et ils n'ont pas le choix que de grandir avec, qu'il soit positif ou négatif. Il y aura toujours du négatif. Et non, tant que c'est bien encadré, hein, comme on disait, que ce soit pour le temps de jeu, etc., je pense que tout peut bien se passer et ils peuvent rester. Sans d'esprit.
Donc toi, tu penses que pour, par exemple, un modèle d'une vision à long terme pour un contrat ou autre, il faudrait du coup plus privilégier les jeunes, plus de formation, plus de jeunes encore que maintenant, ou privilégier des stars confirmées, un peu comme tu le disais, du coup, toi, ta référence au basket, vraiment se cibler sur un joueur principal et construire plutôt une équipe autour de ça.
Ouais, bah tout à fait. Bah, après, pour le foot, ça doit pas être exactement pareil. Ils sont quand même 11 par équipe sur le terrain, donc pas pareil. Mais franchement, au basket, en tout cas, c'est 5. C'est plus simple de construire autour d'un joueur. Mais il faut se baser sur un joueur qui a les épaules aussi. Donc très jeune, c'est difficile à voir. Mais construire autour d'un jeune joueur. Qui a du talent et qui on voit qu'il a le potentiel, c'est bénéfique, je pense, pour les équipes.
C'est exactement ce que montre la Coupe du Monde, du coup, là, des U17 qui a lieu en ce moment même. C'est un vrai tremplin pour la nouvelle génération qui pourra peut-être, comme je le disais tout à l'heure, intégrer des grosses équipes ou même des très gros clubs dès la fin de leur tournoi ou quand ils seront plus en âge de rejoindre ces clubs. Et bah, voilà qui conclut du coup notre débat pour aujourd'hui. Sur les jeunes talents du coup dans le sport professionnel, donc ici notamment dans le foot, on a vu que du coup la place du jeune elle est encore limitée, un peu faible, mais que les structures elles essayent de s'englober autour, de s'agripper à ces jeunes, de les montrer au monde, notamment dans les compétitions mondiales comme là la Coupe du Monde qui offre du coup beaucoup plus d'opportunités, de visibilité à ces jeunes pour trouver des clubs plus tard. Et il reste juste bah, à savoir si justement ces clubs et ces fédérations sauront les intégrer tout le long de leur carrière. Avant d'enchaîner sur l'actualité du basket de la semaine avec Enzo, on va se faire une petite pause musicale. I like your star, so flashy, catch you staring at me when you smile. So catchy, love when you're staring at me like you're a star. Yeah, I like your star. Yeah, yeah, yeah. Stashing a photo on a roll, hose up. Girl, he's fanning out, trying to ask me for a photo. If you're trying to get a feature, it's a couple over. I got him stressed and make him turn it over. Oh shit, at the party, solo host coming over, pick her out. Got her feeling lucky like a fully cover. In and out, girl, I can't stand, fucking hold you up. But I could put you in Celine, I'll fashion over. On empty, I had to fill it up. Haters mad, crying like a baby, need a sippy cup. I know that I'm making it look easy, never said it was. I'm excited, exclamation in a couple ones. Hot boys, everybody wanna be us. See ya, take care, when I wanna be ya. Oh man, call on my phone. I had to show them what we on just so that they would believe us. Hey, seeing pennies on the street, I gotta pick up. Good luck, give me everything that I've been needing. If I'm greedy, trying to keep it, take it from me, I'ma feed it. Good girls always keep it secret. I like your star, so flashy, catch you staring at me when you smile. So catchy, love when you're staring at me like you're a star. Yeah, I like your star. Yeah. Et comme je le disais, maintenant, place donc à l'actualité du basket, mon cher Enzo.
Et bah, l'actualité du basket en tête de Betclic Elite, on va déjà pouvoir retrouver Monaco qui maîtrise de plus en plus son sujet. On voit une équipe qui commence à prendre ses marques et à aller chercher des victoires faciles. Ils sont premiers en ayant tapé les deux autres prétendants au titre, Paris Basket et Lyon Villeurbanne. À la deuxième place, la surprise, Le Mans, qui n'a qu'une seule défaite contre l'Asvel, mais de très belles victoires contre Paris Basket, Bourg-en-Bresse ou encore Cholet, qui eux sont pour le moment troisième sans avoir pour le moment affronté de Cador. Cholet a subi deux défaites, comme les autres équipes, jusqu'à la septième place respectivement, Lyon, Villeurbanne, Strasbourg, Paris Basket et Nanterre. Du côté de l'Euroligue, un peu plus de matchs joués, 8, et les clubs français sont un petit peu à la traîne. Lyon-Villeurbanne sont actuellement derniers et passent derrière Baskonia, qui a pris deux victoires de suite sur les deux derniers matchs d'Euroligue, sur Dubaï et sur la Anadolu Efes. Paris Basket à la 10e place avec 4 victoires pour 4 défaites. Monaco avec une victoire de plus pour, défaite de moins, pour une défaite de moins. Et 5e et sort de 2 victoires sur des cadors d'Euroligue. Et tête d'affiche du championnat grec, l'Olympiakos et les Panathinaikos. Ah, c'est compliqué, hein. Le top 3 d'Euroligue est pour le moment pris par Žalgiris Kaunas, l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Hapoël Tel Aviv. Donc maintenant, mon petit préf, on passe à la NBA. Donc cette semaine, on a eu un très beau spectacle, un concentré de performances et de surprises. On a eu un Tyrese Maxey à son prime. Il continue d'impressionner tout le monde. Le jeune meneur des Sixers, élu joueur de la semaine de la conférence Est, avec des stats de haut vol et surtout un leadership de plus en plus affirmé. Il prend vraiment les commandes de l'équipe depuis le départ de James Harden et ça marche. Les Sixers enchaînent les victoires et s'affirment déjà comme un sérieux candidat dans l'Est. À Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a encore montré qu'il était un des patrons de la ligue. Il a offert la victoire à son équipe sur un tir au buzzer contre les Pacers, concluant une soirée à plus de 30 points et une dizaine de rebonds. À ses côtés, Damian Lillard commence peu à peu à trouver ses repères et les Bucks se placent tranquillement parmi les favoris du début de saison. Giannis, qui avait vraiment dû porter son équipe sur les premiers matchs, ça doit lui faire du bien d'avoir un Damian Lillard qui le supporte un peu plus. Dans l'Ouest, les Lakers ont pu compter sur un énorme coup d'État d'Austin Reaves avec 51 points, qui est son record en carrière. Phénoménal. Rien à dire là-dessus, Austin Reaves, bravo. Et il a écrasé Sacramento un peu à lui tout seul. Le jeune arrière s'affirme comme une vraie troisième option derrière LeBron James et l'ancien Anthony Davis qui est parti depuis un petit moment des Lakers. En revanche, du côté des Warriors, c'est un peu mitigé. On a un Stephen Curry un peu irrégulier qui devrait simplifier son jeu et redonner un rythme collectif. Qui cherche encore son équilibre. Cette équipe, c'est un peu dommage. Et pour nos Français, dans tout ça, on a un Rudy Gobert, fidèle à lui-même avec Minnesota. Il est toujours aussi dominant dans la raquette, cumule les rebonds, contre et une vraie présence défensive. Nicolas Batum, lui, commence doucement son aventure à Philadelphie et son expérience et sa polyvalence font du bien à la rotation. Bilal Koulibaly à Washington continue d'apprendre avec des entrées de jeu intéressantes. Et on a eu le droit à la première défaite de la série des Spurs de Victor Wembanyama. Petite déception, il était très régulier avec des très bonnes stats, là où on a beaucoup vu les gens le critiquer sur son jeu, alors que tant que les stats sont là, je vois pas le problème. Mais Première défaite, un match à moins de 10 points, c'est le premier de cette saison. Et ils sont maintenant à 7 matchs gagnés contre une défaite. Une semaine rythmée en confirmation, belle surprise et quelques débuts de saison encore hésitants. Les jeunes grandes stars font leur petit chemin et c'est super plaisant de voir une NBA qui redémarre aussi fort là où on l'a connue.
Oh boy.
Petite discipline un peu méconnue, comme je le disais tout à l'heure, la petite surprise du jour, le cross-trial. Donc, c'est du trial à vélo. Donc, c'est une discipline de cyclisme qui est très technique, où là, l'objectif, ce n'est pas d'aller le plus vite, d'aller le plus loin, mais du coup, de franchir des obstacles, du coup, sans poser le pied à terre. Donc, les obstacles, ils peuvent être tout à fait naturels, donc que ce soit des troncs, des rochers ou aussi artificiels, donc des barres, des pneus, des caisses en métal. Et du coup, le cycliste, il doit montrer un vrai équilibre et une précision. Et aussi, du coup, la maîtrise de son appareil, donc de son vélo, dans des conditions et des positions, des fois, qui sont très compliquées. Ils peuvent faire des sauts assez énormes. Et du coup, on a plusieurs catégories. Du coup, les 20 pouces, 26 pouces et les électriques. Donc, c'est différentes catégories selon la taille ou le modèle de vélo, donc pour l'électrique notamment. Et pour les règles principales, du coup, chaque parcours est divisé en zones et le but, c'est de passer du coup toutes les zones sans poser le pied au sol. Donc chaque pied posé, c'est un point de pénalité. Et du coup, les meilleurs, forcément, ce sont ceux qui ont le moins de points de pénalité. Et c'est pas du coup le plus rapide, parce qu'on a beau se précipiter, c'est pas en allant vite qu'on va bien réussir, comme on dit, prenons notre temps et faisons les choses bien. Pour les compétitions, on a du coup les championnats du monde de trail, de trial UCI, donc qui est la référence internationale qui est organisée chaque année par l'Union des cyclistes internationales. On a aussi des championnats d'Europe, des coupes du monde de trial avec des étapes, notamment en France, en Espagne, en Suisse ou même au Japon. Les compétitions, elles attirent notamment des riders comme Tony Bou, qui est multiple champion du monde, qui est considéré comme le meilleur triathlète de tous les temps. Quelques faits intéressants, du coup, le trial, ça peut se pratiquer, notamment en indoor ou en outdoor, donc à l'intérieur comme à l'extérieur, en ville, même en pleine nature, en pleine forêt. C'est un sport assez spectaculaire parce que, du coup, je le disais, des positions, des tricks, des franchissements qui sont assez impressionnants, même pour ceux qui font pas vraiment de vélo et qui ne sont pas forcément attirés par le vélo. C'est complètement différent du cyclisme sur route et c'est de plus en plus diffusé sur notamment les réseaux sociaux grâce aux vidéos sur YouTube ou sur TikTok, notamment des tricks. Je sais qu'il y avait ça notamment en moto avant, donc des gens qui franchissaient des obstacles là, 1 ou 2 mètres de haut avec leur moto. Maintenant, on fait ça avec des vélos aussi, sur des plots au bord d'une route ou quoi. Et bah, le trial, du coup, c'est un sport qui ne se limite pas que aux disciplines médiatisées comme bah, du coup je le disais la moto et ça combine beaucoup de techniques que ce soit physique ou même du spectacle et c'est un sport assez original. Cette semaine pour mon coup de cœur, je vais parler bah, bien évidemment du tennis avec la finale du Rolex Paris Master qui est plus largement le tournoi même dans son ensemble donc ça a été une ambiance assez magique avec un public très très chaud et un spectacle de très haut niveau, notamment Yannick Sinner, comme je disais tout à l'heure, qui a été très époustouflant. Il a remporté du coup son titre sans perdre un seul set. Et il s'est battu du coup en finale contre Félix Auger-Aliassime et il a gagné 6-4, 7-6. Donc un niveau de maîtrise complètement ahurissant, avec notamment dans les moments clés où il a su tenir son rôle de maintenant. Premier mondial qui est revenu avec cette victoire, premier mondial, et l'absence de Carlos Alcaraz qui a aussi peut-être changé la donne, a permis à Sinner de remporter son titre plus facilement, notamment avec une grosse domination contre Alexander Zverev en demi-finale, où il a remporté son match 6-0, 6-1, donc un score qui parle de lui-même, et donc ça laisse Sinner exploiter pleinement l'opportunité de l'absence de Carlos Alcaraz pour montrer la différence de niveau entre le top 1 et 2 et le reste du circuit, parce qu'il y a vraiment un écart de niveau entre eux, comme on peut le voir du coup avec Alexander Zverev qui est troisième mondial. Et pour moi, c'est tout ce que j'aime dans le sport, c'est la maîtrise, le suspense qui n'a pas trop été présent cette fois-ci, et l'excellence du geste, de la beauté du coup. Et aussi les émotions, la rage, l'envie de vaincre, qui a été vraiment partagée avec tout le public. Pour maintenant les compétitions, je vais vous parler un peu des compétitions qui vont venir les prochains jours ou prochaines semaines. On aura notamment le Paris Supercross. Du coup, pour cette semaine, les amateurs de sensations fortes, bah, faudra se rendre à Paris, à la Défense Arena, pour le Paris du coup Supercross 2025, le 15 et 16 novembre. Du coup, le supercross, c'est du motocross intérieur sur des circuits artificiels avec des sauts spectaculaires, des virages hyper serrés où les pilotes professionnels ils viennent s'affronter à très grande vitesse. Donc, les meilleurs pilotes internationaux, ils seront là pour la course, notamment surtout spectaculaire qui mêle adrénaline et technique. C'est un événement vraiment à ne pas manquer pour tous les fans de sport mécanique. Maintenant, niveau aquatique, on aura l'European Aquatic Conference Cup, donc pour le Water Polo Club, donc du 7 au 9 novembre, donc ça commence fin de semaine, dans plusieurs villes européennes qui les accueillent. Du coup, c'est les phases de qualification du coup, de la première édition de la Conference Cup, là. Et du coup, c'est un tournoi de Water Polo à l'échelle continentale, avec du coup des équipes venues d'Utrecht, d'Athènes, de Split, de Belgrade, de Rijeka qui vont du coup s'affronter dans ce sport collectif qui est assez intense et spectaculaire. Parce que oui, lancer un ballon dans un but face à une équipe adverse en ayant le poids d'un autre joueur sur soi avec 2 mètres de profondeur, c'est pas toujours très simple. C'est très compliqué et c'est beaucoup moins médiatisé que le football ou comme on pouvait parler juste avant le tennis. Mais ça promet quand même de belles passes, des arrêts assez impressionnants et surtout beaucoup de rythme et beaucoup de violence. Et pour finir, on aura le Player du coup Championships final de snooker du 21 au 23 novembre. Du coup, pour les amateurs ici de précision, de stratégie, pour suivre du coup les finales Championship finales de snooker au Butlins Resort de Minhead en Angleterre. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas trop le snooker, moi j'en fais partie, je me suis renseigné. Et du coup, c'est un sport de billard où les joueurs doivent empocher les boules dans un ordre précis, avec du coup une stratégie, une précision assez incroyable. Des matchs qui peuvent aller très très vite. Un joueur qui peut mettre toutes les boules les unes après les autres, hyper facilement, comme si il buvait du thé ou il mangeait un hamburger. Et du coup, là, les 64 meilleurs joueurs mondiaux vont venir s'affronter dans ce tournoi élite qui offre du coup des matchs parfois serrés, parfois rapides, avec un niveau totalement exceptionnel. C'est un sport très très peu médiatisé chez nous en France, mais c'est incontournable pour les passionnés et les curieux notamment. Big carbon here like Mayweather. Tula come through and blow a hoe. Got millions out there rap shit. They hate a bitch, but they stole the flow. Cat back in after back in coming. Fuck them, I stole the show. Don't run up on that bitch, she a head case. All she do is shoot. I signed my deal up on the PJ and hopped out of parachute. I'm geeked on next week, bout no more features. I might just third you. I'm geeked on next week, bout no more features. I might have parachute. Yeah, glow. Stomp a little pussy hoe with some shell toes. Yeah, glow. Slapping rap bitches and making bail hoe. Yeah, match the nails, ho. Yeah, glow. No competition, these bitches stale, ho. Yeah, glow. Curbing, no curbing, my shit in layers, ho. Yeah, glow. Say they get money, but I can't tell, ho. Yeah, glow. Keep running circles around these snail hoes. Yeah, glow. And my shit bumping up in the jail, ho. Oh, big glow, where you been at? Mine, everywhere I'm working hard. Maybach and G-Wagon truck, got M&M's in my garage. Quick to crank up on the hoe, you bitches better not get me started. Locked in with the gangsters and players, my folks gon' keep it solid. Everything I got on new, it look like I got renovated. I'm cocky, bitch, when I was just humble, they didn't appreciate it. Young, wealthy, and ratchet, I'm the hood, bitches, motivation. On top of the world now, they tried to underestimate me. Get them, glow. Them bitches fraudulent, you know you the truth. Get them, glow. Stop overthinking, these hoes can't fuck with you. Get them, glow. Standing on business in these Chanel shoes. Before I let a hoe play with me, I'll go eat some jail food on gang. Get them, glow. Stomp a little pussy hoe with some shell toes. Yeah, glow. Slapping rap bitches and making bail, ho. Yeah, glow. Two-tone Cartier, match the nails, ho. Yeah, glow. No competition, these bitches stale, ho. Yeah, glow. Curbing, no curbing, my shit in layers, ho. Yeah, glow. Say they get money, but I can't tell, ho. Yeah, glow. Keep running circles around these snail hoes. Yeah, glow. And my shit bumping up in the jail, ho. Yeah, glow. C'est la fin de Sport 360 pour aujourd'hui, mais le sport, lui, ne s'arrête jamais. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même énergie, pour refaire le plein d'émotions et de performances.